L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On va revenir ce matin sur les discussions qui se sont tenues à Paris et sur l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Et pour en parler, vous recevez Virginie Rufnac.
Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, qui a participé évidemment à ces discussions à Paris la semaine dernière. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation au retour de Paris, où vous avez donc négocié et signé cet accord Élysée-Oudinot. Deuxième round de discussion après l'accord de Bougival. Ma première question, on va revenir évidemment sur les avancées qui ont été actées dans ce nouvel accord. Est-ce que c'était une réunion qui a vraiment été utile et est-ce qu'il était important de se retrouver à Paris pour étudier tous ces sujets?
Oui, bien sûr. Vous savez, ça fait plusieurs mois maintenant et plusieurs années que la Nouvelle-Calédonie est dans une grande difficulté sociale, économique, politique, institutionnelle. Et finalement, c'était soit sombrer complètement, soit effectivement avoir une solution. Et donc, finalement, cet accord de Bougival, les compléments qui lui sont apportés, ça n'est pas une option, c'est une nécessité pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens.
Alors, les choses ne sont pas encore complètement engagées. On sait que le FLNKS n'a pas participé aux discussions. Est-ce que ça reste un point de préoccupation pour vous?
Écoutez, ça fait des années qu'ils jouent désormais le jeu de la terre brûlée, de la chaise vide, des retours calculés autour de la table, qu'ils confondent finalement cette table des discussions et du dialogue avec la table du petit calcul politique. J'entends encore ce matin Emmanuel Tchibaou dire que leur seul objectif désormais, c'est de s'opposer. Et finalement, depuis des mois et des années, à part s'opposer, à part avoir fait cette politique de l'enlisement de la Nouvelle-Calédonie, qu'ont-ils proposé ? Donc, véritablement, je suis très triste qu'un tel partenaire n'ait pas été autour de la table. Et finalement, même quand on a des oppositions et qu'on ne souhaite pas quelque chose, eh bien, quand on a du courage, on vient l'affirmer. Ils n'ont pas été capables de l'affirmer. Nous ne pouvons pas éternellement attendre des absents. La Calédonie doit avancer, elle est dans une grande difficulté aujourd'hui. Et donc, c'est l'avenir des Calédoniens qui nous a préoccupés autour de cette table. C'est le courage qui nous a animés pour avancer.
Emmanuel Tchibaou, qui a été réélu président de l'UC cette nuit, un commentaire peut-être sur cette réélection et sur ce partenaire qui ne vient pas s'asseoir à table avec vous?
Je viens de vous le dire, encore une fois, j'entends la première déclaration du député Tchibaou et désormais à nouveau président de l'Union calédonienne. Sa seule déclaration, c'est notre ligne de conduite, c'est de s'opposer. Voilà. Donc, on aura une Union calédonienne qui n'aura jamais été une force de proposition depuis plusieurs années désormais. C'est véritablement dommageable. Et ils n'auront pas été à la table des courageux qui souhaitent faire des efforts réciproques. Vous savez, c'est pas facile pour nous d'aller défendre certains points de l'accord de Bougival auprès des gens qui veulent que la Calédonie reste française. C'est pas facile à l'approche d'élections, vous le savez, municipales, puis ensuite provinciales. Mais nous avons choisi de le faire parce que notre intérêt, c'est pas celui du calcul politique, encore une fois, c'est celui de l'avenir des Calédoniens.
Qu'est-ce qui est pas facile, Virginie Rufnac, dans cet exercice d'expliquer cet accord d'Élysée-Oudinot aux Calédoniens? C'est qu'ils ont peur, finalement, que vous ayez lâché trop de choses?
Écoutez, en réalité, les Calédoniens ont été interrogés trois fois pour choisir ce qu'ils souhaitaient. Par trois fois, ils ont dit qu'ils souhaitaient demeurer au sein de la République française. Après cela, nous aurions pu ne plus parler, ne plus discuter et considérer que la messe était dite. Ça n'a pas été notre cas. Nous savions que
possible.
Et je considère que ça n'était pas possible. Nous avons un camp en face avec lequel il faut discuter. Et finalement, le passé nous apprend que la stabilité en Calédonie, c'est par la voie de l'accord. C'est véritablement par la voie de l'accord. Nous avons discuté et nous avons fait des efforts pour trouver précisément un accord entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et c'est ce que nous avons fait à Bougival après des heures et des jours de discussion. Alors, vous me disiez qu'est-ce qui est difficile? C'est difficile d'expliquer que, bien oui, il y aura un mécanisme, par exemple, sur le transfert des compétences régaliennes, que si une grande majorité des élus du Congrès le souhaitent, si l'État considère que c'est réaliste, si eh bien, la majorité des Calédoniens le souhaitent, eh bien, il pourra y avoir un transfert d'une compétence régalienne. Oui, c'est difficile parce qu'on aurait pu dire c'est terminé, on ne discute plus, et pour autant, il y a encore ce mécanisme.
Alors, justement, qu'est-ce qui a été éclairé par c'est l'expression qui avait été employée dans cet accord d'Élysée-Oudinot par rapport à l'accord de Bougival sur cette question du transfert de compétences? Qu'est-ce qui a changé entre l'accord de Bougival et l'accord d'Élysée-Oudinot?
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que rien n'a changé, par exemple, sur l'ouverture du corps électoral. Hein, c'est bien 15 ans...
Sur les grands équilibres de l'accord.
Sur les grands équilibres de l'accord, rien n'a changé. Le corps électoral, le fait de ne plus avoir de référendum oui ou non à l'indépendance, tout cela est stabilisé et n'a pas changé. Ce qui a été fait, c'est plutôt un éclaircissement, en fait, de l'accord de Bougival. Donc, les indépendants et l'UNI souhaitaient que ce fameux mécanisme sur les transferts de compétences, ça soit bien incarné par un droit à l'autodétermination. Donc ça a été explicité, mais aucun des équilibres n'a été modifié. lorsque nous avons fait l'accord Élysée-Oudinot.
Alors, il y a quand même cette phrase dans l'accord qu'il faut peut-être un peu expliciter. Si l'ensemble des compétences régaliennes de l'État venait à être transférées à la Calédonie, les partenaires se réuniraient pour en tirer les conséquences sur la relation entre l'État de la Nouvelle-Calédonie et la France. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase ? Parce que si les compétences régaliennes sont transférées, ça veut dire que la Calédonie est quasiment dans son état d'indépendance.
Écoutez, en tout cas, les juristes, eux, certains juristes, prétendent qu'il y a trois paramètres. Vous savez, dans l'accord de Nouméa, quand nous votions oui ou non à la pleine souveraineté, il y avait trois paramètres de la pleine souveraineté. Vous avez raison, d'abord, il y a les compétences régaliennes, le transfert des compétences régaliennes, mais il y a aussi une nationalité pleine et entière, ce qui n'est pas réellement le cas dans Bougival, puisque cette nationalité, elle est liée à la nationalité française. Et puis, il y a le statut international plein et entier. Or, l'État de la Nouvelle-Calédonie est au sein de la République française. Donc, vous avez raison, le lien serait tenu. Mais encore une fois, c'est une possibilité d'autodétermination. Ça veut dire que c'est aux Calédoniens de choisir. Et peut-être que, d'abord, il faut 36 élus du Congrès, ce qui est une majorité importante. Ensuite, il faudra que les Calédoniens choisissent. Donc, ce sera eux qui choisiront s'ils veulent un transfert ou pas d'une compétence régalienne.
Et l'État aura son mot à dire dans cet éventuel transfert ?
L'État a son mot à dire. L'État, c'est celui qui a,
il a le droit de veto, par exemple.
Alors, il a le droit, en tout cas, de dire que cette compétence ne peut pas être transférée telle que, éventuellement, cette large majorité des élus du Congrès le souhaiterait. Donc, c'est un mécanisme qui existe. Ça veut dire qu'il y a toujours une trajectoire. Mais nous sommes Français. Nous n'avons plus de référendum oui ou non à l'indépendance. Nous développons la Calédonie. Et puis, il faut le dire, cet accord de Bougival-Élysée-Oudinot, c'est surtout aussi un accompagnement économique et financier majeur pour la Nouvelle-Calédonie.
Alors, on va y revenir, bien sûr, parce qu'il y a ces fameux points qui concernent le développement économique et l'attractivité économique. Il y a aussi, dans l'accord, des compétences qui pourraient être renforcées pour les provinces qui le souhaiteraient. Ça aussi, c'est une nouveauté par rapport à l'accord de Bougival ?
Disons que ça traduit l'accord de Bougival de manière un peu plus pragmatique, en fait, et plus précise. Mais effectivement, lorsque nous souhaitons que les provinces aient davantage de compétences, c'est surtout autour du développement économique. Vous savez, les provinces, elles ont la compétence développement économique, mais elles n'ont pas forcément les outils pour mettre en place ce développement. Et donc, en fait, nous avons traduit ça par le terme d'attractivité, donc les compétences liées à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, nous souhaitons effectivement qu'elles soient entièrement dédiées aux provinces qui peuvent mettre en place chacune leur modèle dans leur territoire.
Les opposants à ce texte disent que c'est la route vers la partition. En tout cas, c'est une hyper-provincialisation. C'est dans ce sens que les choses vont, selon vous ?
Écoutez, c'est une très, très mauvaise interprétation, mais c'est plutôt un cheval de bataille politique que de faire ça, parce qu'en vrai, la partition, c'est une partition politique. Ça voudrait dire que les trois provinces auraient chacun une nationalité différente. Ça n'est pas le sens de ce que nous avons signé à Bougival. Ce qu'on signe à Bougival, c'est dans l'esprit de 1988, où un grand nombre de compétences sont attribuées aux provinces, eh bien, de leur donner les outils de ces compétences et notamment ce développement économique, donc de remettre effectivement dans les provinces des compétences pour développer nos territoires. Plutôt que de se battre au Congrès de la Calédonie sur des choix différents où les trois provinces ne veulent pas forcément les mêmes choses, ce qui crée une forme de stagnation, en fait, de crispation, eh bien que chaque province, comme en 88, c'était l'état d'esprit, développe son propre modèle et puisse à nouveau attirer des investisseurs et de l'innovation en Nouvelle-Calédonie.
Alors Virginie Rufnag, vous l'avez dit, cet accord repose sur deux piliers, un pilier politique et institutionnel, on vient d'en parler, un pilier qui est plus économique avec les annonces du Premier ministre qui ont été traduites dans les faits en quelque sorte sur l'aide que la France va apporter à la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, ça donne des perspectives de développement inespérées, j'allais presque dire, pour la Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que ça va juste permettre finalement de passer la crise le moins mal possible ?
Non, je pense que c'est véritablement un très bon élan pour nous relancer économiquement. Alors d'abord, vous le savez, il y a 60 millions d'euros sous forme de subventions qui seront attribuées à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire 7 milliards de nos francs. 7 milliards, ça permet aussi à la Nouvelle-Calédonie de voter, enfin en tout cas de mettre en place son budget, ce qui n'était pas le cas avant cette séquence parisienne. Il y a aussi 10 millions d'euros, soit plus d'un milliard, qui seront destinés, entre guillemets, à la casse sociale, aux difficultés que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie. Il y a deux années blanches où nous n'aurons pas à rembourser le prêt. Et enfin, c'est un point très très important, il y a un sorte de contrat de désendettement qui sera mis en place entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, et finalement qui se traduit par une transformation des prêts que nous avons perçus en subventions. Tout ça permet à la Calédonie de se remettre sur des rails sain, enfin, en tout cas, sur lequel le navire Nouvelle-Calédonie peut avancer. Et véritablement, on avait besoin de ça, sinon la Calédonie était vraiment en effondrement complet.
Même si la transformation des prêts en subvention est un processus, le processus est acté, mais pas le changement encore, évidemment, ça va faire l'objet de discussions.
Oui, dans les deux années blanches que nous aurons la possibilité de travailler à ce mécanisme de désendettement et donc de transformation, effectivement, de ces prêts en subvention. Nous avons 2 ans pour travailler avec l'État en ce sens.
Alors, Virginie Rufnak, une fois que cet accord est signé, qu'est-ce qui va se passer? On a vu que le calendrier était modifié, il allait un peu s'allonger dans le temps. On parle d'élections provinciales qui doivent avoir lieu désormais avant la fin de l'année, hein, avant le 31 décembre 2026. Comment vous voyez les choses? Est-ce que le calendrier va continuer de se contracter ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a le temps nécessaire pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut mettre en œuvre, à commencer par la loi constitutionnelle au Parlement?
Alors d'abord, je voudrais dire que nous ne sommes pas du tout preneurs d'un recul des élections provinciales. Certains pensent que c'est une façon pour nous de conserver nos sièges, il n'en est rien. Nous avons eu une mandature très difficile, nous sommes des élus politiques, nous aimons la démocratie, nous aimons les élections, nous n'avons aucune difficulté à y aller. Mais nous ne voulons pas d'élections provinciales sur la base d'un corps électoral gelé. C'est la raison pour laquelle tout le processus Bougival, Élysée, Oudinot doit être mise en place, mise en œuvre, de façon à ce que les élections provinciales intègrent ces 12 000 jeunes nés en Nouvelle-Calédonie qui sont exclus aujourd'hui, ces personnes aussi qui sont là depuis de nombreuses années. Bref, tout ça pour vous dire que là, dès février, la loi constitutionnelle doit être examinée par le Sénat et adoptée au Sénat. Et puis ensuite, ça viendra à l'Assemblée. Vous savez qu'en mars, il y a les élections provinciales. Donc nous imaginons que la révision constitutionnelle pourra aboutir au mois d'avril. Élections municipales, pardon, excusez-moi.
Provinciales, ça sera plus tard.
Excusez-moi, élections municipales, bien sûr. Et ensuite, donc, la révision constitutionnelle à Versailles. Et puis ensuite, en juin-juillet, les Calédoniens, puisque dans la révision constitutionnelle, il y a une dernière petite phrase qui dit que cette révision constitutionnelle n'est pas mise en œuvre tant que les Calédoniens ne l'ont pas approuvée. Évidemment, c'est une nécessité. Ce sont les Calédoniens qui doivent donner leur accord. Et donc, en juin-juillet, eh bien, les Calédoniens doivent être consultés sur l'accord avec la loi constitutionnelle donc, qui aura été, je l'espère, adoptée. Et puis, la présentation de la loi organique aussi, jointe, je l'imagine, à cette consultation. Et enfin, ensuite, effectivement, la loi organique, hein, c'est tout un arsenal juridique, et les élections avant le 31 décembre.
Le prochain travail que vous allez mener, Virginie Rufnak, c'est un travail de lobbying auprès des parlementaires en métropole. Ce que vont faire aussi ceux qui souhaitent que l'accord de Bougival soit enterré. Hein. Chacun va aujourd'hui se reporter vers les parlementaires qui auront quand même une part importante dans la décision à prendre.
Alors, en effet, nous avons commencé ce travail avant de partir de Paris. Nous avons vu toute la délégation, l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, leur disant que pour ceux qui étaient opposés, je pense à LFI ou à certains, considérant que si jamais l'UCFNCS n'y est pas, on ne peut rien faire, en leur disant alors du coup, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est quoi le plan B? C'est quoi l'avenir des Calédoniens? Donc on en reste à ce chaos dans lequel nous sommes et nous continuons de sombrer progressivement. Donc nous avons commencé le travail, les élus de l'UNI sont restés à Paris pour continuer ce travail avec un certain nombre d'élus, la présidente du Congrès, d'ailleurs, Velma Falayo également. Donc, en fait, nous allons unir nos forces, effectivement, pour défendre au niveau parlementaire. Et nous comptons sur la ministre des Outre-mer pour aider aussi à convaincre.
C'est vraiment l'étape nécessaire, incontournable des prochaines semaines?
C'est absolument l'étape incontournable. Nous avons dit aux parlementaires que nous ne pouvions pas attendre 2027, que la Calédonie allait continuer, effectivement, comme je vous disais, de sombrer, et qu'il fallait absolument une solution pour donner de la visibilité et de la confiance dans notre avenir.
Alors, Virginie Rufnak, l'actualité politique avance. Il va y avoir cette séquence qui vient de se refermer, pardon, avec cet accord d'Élysée-Oudinot. Il y a la séquence municipale qui arrive. On sait que vous êtes, vous, candidate pour la mairie de Nouméa. Est-ce qu'aujourd'hui, cette séquence va prendre le pas un petit peu sur celle que vous venez de refermer?
Écoutez, effectivement, il y a cette séquence municipale et nous avons décidé de proposer une alternative à Nouméa et de jouer. Nous allons jouer complètement le match parce que nous pensons que Nouméa a besoin d'une énergie nouvelle et sur bien des plans. Il faut travailler notamment sur le plan de la sécurité qui est vraiment un point très difficile à Nouméa aujourd'hui. Mais néanmoins, vous savez, on exerce nos responsabilités et nous exercerons nos responsabilités sur l'avenir des Calédoniens de front, en fait, avec ces élections municipales pour lesquelles, effectivement, nous proposons cette énergie nouvelle.
Des élections qui seront un peu plus politiques peut-être que certaines autres années?
Peut-être, en effet, nous sommes dans un contexte politique assez dense à ce niveau-là, mais néanmoins, nous irons sur l'ensemble des sujets de gestion d'une ville, et notamment de cette magnifique ville où je suis née, qui est la ville de Nouméa.
Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci.
Une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Il est 7h passé de 50 minutes, merci d'être avec nous. Juste après la pause, on se retrouve au 25 46 46 pour la deuxième partie de Vous avez un avis.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3 900 francs par jour. Seulement 3 900 francs par jour.